simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Le réseau Stop Précarité, né en 2001 à l'initiative et en soutien de jeunes salariés de la restauration rapide et du commerce en grève chez McDo, Pizza Hut, Maxi Livre ou la Fnac, a décidé de s'organiser face à la précarité du travail. Cette précarité n'a cessé de se développer sous de multiples formes, sous-traitance, auto-entrepreneuriat, contraint, ubérisation, emploi sans titre de séjour, etc. Les luttes se multiplient et obtiennent des victoires, mais le droit du travail ne cesse de reculer. Connaître le droit du travail, ce qu'il en reste, permet de mieux se défendre face à son patron, d'organiser la solidarité avec ses collègues, car la lutte permet seule de conserver ses droits au travail et d'en arracher de nouveaux. Et depuis 2004, des juristes du travail, des syndicalistes, CGT, CNT, Solidaires, proposent bénévolement des cours mensuels gratuits de droit du travail, droit social, ouverts à tous et toutes, sans inscription préalable. Donc nous nous sommes rendus le lundi 2 octobre 2023 pour écouter l'un de ces cours organisés par Luc Chevalier qui est à Sud Emploi et Johan Picto qui est de la CGT Pôle Emploi. Le thème, les chômeurs face à France Travail. Nous allons commencer par faire le point. Les chiffres sont toujours manipulables. D'un côté, un gouvernement qui a tendance à minimiser le nombre de chômeurs, mais la réalité est parlante. Et on va commencer par dresser un petit tableau du monde du chômage et de la précarité en France.
Comment est calculé ce fameux taux de chômage? Il est calculé, il ne reflète pas du tout la réalité. Non,
mais... Il y a toujours 6 millions de chômeurs inscrits,
oui.
Dont
mmh.
la moitié... sont en catégorie A, c'est-à-dire ça correspond à 10% de la population active.
Oui, mais tout à fait.
Donc ils choisissent vraiment des chiffres parce que les chiffres de l'INSEE sont basés sur la définition du Bureau international du travail, qui est la définition la plus restrictive du chômage. Parce qu'il faut que les personnes aient fait des recherches d'emploi, enfin il y a bien plusieurs critères, et soient disponibles pour travailler immédiatement. Donc en réalité, on sait qu'il y a 10% de chômeurs. D'après les inscriptions à Pôle emploi en catégorie A, les personnes qui n'ont pas du tout travaillé dans le mois, c'est 10%, c'est pas 7%.
À l'heure actuelle, à Pôle emploi, donc seulement sur les inscrits, hein, parce qu'il y a tout un tas de gens qui ont renoncé aussi à s'inscrire et à bénéficier finalement de leurs droits, à l'heure actuelle, il y a seulement 36% des inscrits à Pôle emploi qui touchent une allocation chômage.
Voilà.
Donc l'idée qu'on a sur les gens, ils sont inscrits pour leurs allocs, déjà en fait, c'est pas vrai, parce qu'en fait, la majorité des inscrits ne touchent pas d'allocation, en tout cas pas d'allocation chômage. Ils sont pour un tiers peut-être aux minima sociaux, mais pour un autre tiers, en fait, n'ont rien du tout. Donc 36% des inscrits. Sur ces 36% des inscrits, il y a 40% qui est sous le seuil de pauvreté.
Voilà.
En gros, qui touche une allocation de moins de 950 euros par mois. Donc en fait, la très grande majorité des chômeurs, 40% des 36%, 40% des indemnisés sont sous le seuil de pauvreté. Je crois que c'est 950 euros par mois, il me semble, à l'heure actuelle en France. Quoi. Donc en fait, clairement, on ne vit pas bien au chômage. La majorité touche des allocations de merde. Enfin, la majorité qui en touche touchent des allocations de merde. En parallèle du projet de loi France Travail qui est débattu à l'Assemblée, donc comme le disait Luc, il y a des négociations sur une nouvelle convention d'assurance chômage, et c'est vraiment en parallèle, hein, c'est que là du coup, tu as le débat à l'Assemblée sur France Travail pour une loi France Travail, enfin une loi Pôle emploi, et la convention d'assurance chômage est censée être une négociation entre syndicats et patronat, sauf qu'en fait le gouvernement produit une lettre de cadrage qui est tellement restrictive que c'est impossible qu'il y ait une négociation, et donc il va faire comme il y a 4 ans, bah, il va reprendre la main, il va passer par des décrets pour décider unilatéralement de ce qu'il veut comme assurance chômage. Et clairement, l'idée, c'est de réduire encore les droits, qu'ils le sont déjà actuellement, mais réduire encore plus les droits. Et c'est vraiment deux revers d'une même médaille, où d'un côté, France Travail est là pour fliquer, pour mettre la pression, pour mettre au travail forcé, et l'assurance chômage sera là pour indemniser le moins possible et en fait mettre dans la misère les gens et les pousser à n'accepter n'importe quel boulot. Sachant que, clairement, le boulot, il n'y en a pas. Enfin, faut aussi se le dire, Macron qui dit qu'il suffit de traverser la rue, il suffit de faire le tour du Vieux-Port pour trouver du travail, c'est pas vrai, il n'y a pas de boulot en fait en France, ou alors quand il y a du boulot, c'est du boulot extrêmement précaire. À chaque fois, chaque trimestre, ils se targuent des embauches qui se font. En fait, la plupart du temps, c'est sur des contrats très précaires, des temps partiels, des CDD et absolument pas sur du CDI. Dans le sens du BIT, du Bureau international du travail, il suffit d'avoir travaillé une heure sur le mois, on exclut du chômage. Hein. On exclut des chiffres du chômage, de la comptabilisation. Aujourd'hui, si on regarde sur le site de Pôle emploi, et c'est un exercice qui est très, très simple à faire, hein. Moi j'aime bien le faire, j'ai encore fait aujourd'hui là, sur une agence, ça prend une minute. Sur pôle-emploi.fr, quand on y va, il y a marqué en gros 1 100 000 offres disponibles. Voilà, c'est marqué en gros, donc clairement, quand on y va et qu'on est privé d'emploi, bon, en fait, il y a du boulot, quoi. Donc en fait, si on est au chômage, c'est un peu notre faute, c'est qu'on ne fait pas assez d'efforts. 1 million d'offres disponibles. Il suffit de mettre 3 critères de requête. Il suffit de mettre temps plein, CDI, SMIC, on tombe à 80 000 offres. France entière, tout métier confondu. Voilà, et donc on passe de 1 100 000 à 80 000 offres. Donc clairement, il n'y a pas de boulot. 80 000 offres sur 6 millions d'inscrits et 10 millions de chômeurs, du halo de chômage, bon, en fait, il n'y a pas du boulot. Donc clairement, le projet de loi France Travail, c'est avant tout un projet de loi idéologique. On sait très bien que les gens vont pas avoir du boulot. Il n'y en a pas. C'est une volonté de contrôle social. C'est une volonté de mettre une épée de Damoclès au-dessus de chaque chômeur, lui dire que s'il est au chômage, c'est de sa faute, c'est de sa responsabilité, et que du coup, on est en droit d'exiger un contrôle sur son emploi du temps, sur sa vie privée, sur ses démarches, et que du coup, ça justifiera toute mesure de coercition, de surveillance, voire de sanction de chaque personne apte à travailler selon l'idéologie libérale.
Surtout que les sanctions seront très lourdes, elles vont être alourdies, et même si on rentre de nouveau dans les critères du contrat d'engagement, on ne récupérera pas forcément ce qu'on devait toucher.
Pas hein. Plus de 3 mois de suspension.
3 mois maximum.
3 mois de suspension maximum.
Et j'ajoute juste que quand justement on aura pris tout ça dans la gueule, lundi 6 novembre, on fera un cours sur ce que sera devenu le RSA. Et on parlera peut-être plus du fait que, d'ores et déjà, le RSA est géré par les départements. Et il est géré de façon extrêmement inégalitaire. Agir ensemble contre le chômage Clermont-Ferrand, qui a fait un énorme travail de recensement déjà de ces inégalités, qu'il a envoyé tout son travail il y a déjà presque un mois aux députés de la NUPES, en leur demandant de créer une commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements actuels, déjà, de gestion du RSA par les départements, ben on n'a pas de réponse. Hein. D'ores et déjà, hein, le RSA, on ne le touche pas de la même manière selon les départements. Les départements ont des politiques très différentes.
Il y a des zones de bosse uniteur, mon salaire c'est le salaire de la sueur. Il y a des zones de bosse uniteur, mon salaire c'est le salaire de la peur. Quand on manifeste, t'as bien raison. Là, ils te font pas, c'est
Dans ce cours de droit du 2 octobre 2023, le thème France-Travail est la loi dite pour le plein emploi. Le projet de loi pour le plein emploi, dont le vote a eu lieu le 10 octobre à l'Assemblée nationale, après un vote en juillet au Sénat, qui l'avait déjà durci, est une nouvelle attaque d'une gravité extrême pour tous les chômeurs précaires, dont les allocataires du RSA. Il pousse encore plus loin la restriction de l'accès au RSA et aux allocations chômage et renforce la chasse aux chômeurs en augmentant les sanctions, une orientation mise en œuvre par Hollande avec la loi El Khomri, poursuivie par Macron. Cette politique avait commencé en réalité sous la présidence de Sarkozy avec la fusion opérée entre les ANPE, agences accompagnant les chômeurs, et l'ACEDIC, organisme collectant les cotisations des salariés et versant les allocations aux privés d'emploi. Au nom du plein emploi, objectif absolument impossible à réaliser, il s'agit d'obliger les chômeurs, les RSistes, à accepter n'importe quel emploi mal payé et précaire. La devise est chômage égale business. Dans ce cours, les deux intervenants reviendront sur l'inscription obligatoire à France Travail. Car la loi imposera à tous les inscrits à Pôle emploi, qui va devenir France Travail, mais aussi à tous les allocataires du RSA et leurs conjoints, de signer un contrat d'engagement les obligeant à consacrer 15 à 20 heures par semaine aux activités d'accompagnement proposées par Pôle emploi et des boîtes privées. Seuls les invalides et les handicapés en ont été exonérés selon un dernier amendement. Alors, le contrat d'engagement, là, le nouveau contrat d'engagement n'a plus rien à voir avec le projet personnel. Ça, c'était l'autre truc qu'il y avait avant. Il se voit adopté après une expérimentation du nouveau RSA dans plusieurs départements. Les intervenants y reviendront. Mais sans qu'aucun bilan n'en ait été tiré. Et même avant que la loi ait été votée. Or, ces expérimentations ont eu des résultats très variés selon les départements. Le contrat d'engagement est censé être réciproque. Or, la loi en cours d'examen ne précise absolument pas les engagements du service public. Il n'y a que des obligations du côté des chômeurs. Mais cela ne suffit pas au gouvernement qui veut aller toujours plus loin tout en prétendant faire baisser le taux de chômage calculé sur les seuls inscrits en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité.
Par exemple, on a fait deux cours sur la CAF, la convention d'objectifs signée il y a 4 ans par Macron avec la direction de la CAF, obligeait les agents de Pôle emploi à couper pendant 4 à 6 mois, sans les prévenir, sans rien leur laisser pour vivre, les allocataires familiales, allocations familiales, RSA, allocations handicapées, qui coûtaient cher, c'est-à-dire les plus pauvres. Ils ont coupé à des millions de gens qui se sont retrouvés à la rue ou à crever. Et il y a un collectif de toute la France qui s'appelle Changer de Cap, où il y a d'ailleurs des gens d'AC, il y a des gens du MNCP dedans, qui, parce qu'ils regroupent l'APREM à Marseille, le MNCP à Mulhouse, le MNCP à Clermont-Ferrand, AC à Clermont-Ferrand, tout ça, ce collectif Changer de Cap, ils ont découvert cette arnaque terrible voulue par Macron contre des millions d'allocataires CAF, et ils ont fait un raffut, une enquête, ils ont récolté les témoignages, ils ont consulté des avocats, ça. Ils ont fait un énorme boulot qui est disponible et qui est loin d'être fini parce qu'ils ont saisi tous les députés possibles, imaginables de la NUPES et peut-être même du groupe Lio pour qu'ils demandent une commission d'enquête, etc. Et ce travail n'est pas fini, mais d'ores et déjà, il a été tellement diffusé que la nouvelle convention d'objectifs de la CAF est un tout petit peu moins pire que celle d'il y a 4 ans. C'est pour vous dire que dans tous les services publics, c'est la même logique, déshumanisation, numérisation, spoliation des droits, suspension sans raison, et avec le RSA, vous êtes bien au courant, il va falloir faire 15 à 20 heures, je ne sais plus si c'est 20 heures, mais au moins ça sera 15 d'activités, on ne sait pas trop lesquelles, et ça pourra consister à faire des stages en entreprise ou du travail gratuit aussi, y compris pour des agriculteurs qui n'ont pas une minute de la journée, ou pour des, ils disent qu'ils ne vont pas l'appliquer à des handicapés, il ne manquerait plus que ça, ou à des femmes seules en fait, avec enfants, mais ce n'est pas fini de voter, le vote sera le 11 octobre. Le collectif UNEDIC regroupe AC, Agir Ensemble contre le chômage, MNCP, Mouvement National des Chômeurs et Précaires, APES, qui est pareil, une association de défense des chômeurs, CGT Chômeurs, Solidaire, et puis les syndicalistes Sud et CGT de Pôle emploi, qui nous donnent la chance aujourd'hui, ils sont là, Johan et Luc, de nous expliquer ce qui se passe. Ce collectif UNEDIC, vous pouvez le rejoindre pour nous aider à ce qu'on parle un peu quand même de ce qui se passe pour des millions de chômeurs et de précaires. C'est loin d'être la moitié qui touche quelque chose. Je ne sais pas si ce n'est pas que 30% des inscrits qui touchent quelque chose. Donc je vais passer la parole à Johan et à Luc en les remerciant vivement.
Moi, je suis Luc, Sud Emploi, et camarade Johan, CGT. Ce qu'on se propose, de voir un peu selon ce qui a été discuté là dans les dernières semaines en commission à l'Assemblée, un peu ce que ça signifie, quoi. Je suis syndicaliste à Pôle emploi, mais voilà, je ne suis pas spécialiste en droit du travail ou autre. Hein, donc, Alors, premier point, pour commencer sur une... pas une anecdote, mais enfin sur comme un retour en arrière, on va dire, voilà. En 2007, le gouvernement de l'époque avait sorti un communiqué, donc 2007, on se rappelle, c'est en fin 2007, donc juste avant la création de Pôle emploi, la fusion NPA-CEDIC, le gouvernement Sarkozy avait sorti un communiqué mettant en avant les principes simplification pour les demandeurs d'emploi, l'objectif du plein emploi, etc. Bon, 15 ans avant, juste pour dire, on avait le même discours, dans l'obsession des capitalistes de l'atteinte de ce qu'ils appellent le plein emploi, qui devait passer par la simplification, et en l'occurrence, qui est passé par la fusion de la NPE, de la CEDIC, qui a donné donc Pôle emploi, comme on le sait. Dans la création de France Travail, il n'y a aucun bilan à en tirer. France Travail, c'est un approfondissement, une aggravation de la logique de Pôle emploi. Ce n'est pas une fusion de toutes les structures. Mais en tout cas, on poursuit dans la même logique de la simplification, entre guillemets, de l'objectif du plein emploi, etc. Pour voir dans quoi ça s'inscrit, c'est comme ça s'inscrit ce projet France Travail. C'est l'autre face d'une même médaille qu'on a eue avec la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, la contre-réforme des retraites, la contre-réforme de l'assurance chômage, la réforme des lycées pro, et Borne le dit clairement, France Travail, c'est la quatrième étape. Voilà. Première étape, l'assurance chômage. Deuxième étape, les retraites. Troisième étape, les lycées pro. Et là, on conclut, on finit la panoplie. Ça montre bien la cohérence de tout ça, c'est-à-dire de créer les conditions de l'appauvrissement d'un maximum de travailleurs pour peser sur le reste des travailleurs qui ont encore un emploi, de tirer les salaires vers le bas, toujours dans l'intérêt de faire des profits les plus importants pour le patronat. Ça, c'est le premier aspect, bien sûr, central. L'autre aspect, c'est la poursuite de tout ce qui est le chômage business, le business du chômage. Parce que le fait de ne pas donner les moyens au service public de l'emploi d'accompagner, faire son travail d'accompagnement, d'orientation, etc., ouvre très clairement la porte aux boîtes privées. Le business du chômage, c'est pas, on n'invente pas. Rapport de la Cour des comptes en 2022, c'est 286 millions d'euros. Voilà, c'est pas nous qui le disons. 286 millions d'euros pour les boîtes privées, pour les sous-traitants qui sont censés recevoir les chômeurs. Donc effectivement, il y a un gâteau très intéressant.
C'était multiplié par 2 en 5 ans.
La tendance est claire, il y a un gâteau très intéressant à se partager. Une fois ceci dit, sur un peu, voilà, des éléments très généraux, Là, le but, c'est un peu de rentrer quand même un peu dans le détail aussi par rapport à ce qui s'est discuté depuis l'examen en commission des affaires sociales, qui a commencé le 18 septembre, et l'examen à l'Assemblée le 25 septembre. Donc en gros, c'est voir un peu, un par un, sur le projet de loi, et puis discuter aussi, bien sûr, de l'aspect assurance chômage, qui est voilà, partie intégrante de cette logique, puisque il est prévu de ponctionner plusieurs milliards d'euros sur l'UNEDIC pour financer France Travail, faire en sorte que les cotisations salariales ne servent pas à dismer les chômeurs, mais à financer la politique de l'emploi du gouvernement. Voilà, c'est ça la logique qu'ils ont derrière.
Un jour viendra où tu repenseras, ils m'ont bien eu ces enfoirés. Moi, je vois mon vieux, ils l'ont roulé, pour eux, ce n'est qu'un futur retraité.
Donc je commence un peu sur l'inscription. Sur l'inscription, ils ont, donc là, vous avez vu, ça a été voté. Il y a eu toute une série de discussions, l'inscription obligatoire pour les allocataires du RSA et leurs conjoints. J'ai pris le temps, on va dire, de lire un peu toutes les discussions de la commission des affaires sociales, parce que pendant une semaine, ils ont beaucoup discuté de ça. Ce qui est intéressant à voir, c'est-à-dire que toutes les discussions sur pourquoi vous rendez obligatoire l'inscription de tous les allocataires du RSA, alors que même y compris dans le Code du travail, quand tu t'inscris à Pôle emploi, c'est censé être une démarche volontaire. Donc la seule réponse de Macron, enfin du rapporteur et la droite, hein, à chaque fois, c'est de dire on va créer un fichier suivi, le fait que tout le monde soit inscrit permettra un meilleur suivi. D'accord, je donne la réponse officielle, qui est bien sûr utilisé pour camoufler le fait que ça permettra de contrôler plus et de fliquer plus et de radier plus. Ça, c'est évident, premièrement. Et deuxièmement, il ment là-dessus, évidemment, puisque en disant que ça permettra un meilleur suivi, ça supposerait, si tant est que la logique soit celle-là, que les conseillers Pôle emploi, pour faire un métier d'accompagnement, aient les moyens. Je parle bien sur l'accompagnement, je ne parle pas sur le contrôle, on est bien d'accord. Bon. Donc même ça, ils savent pertinemment que ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas de réponse à ça, de dire, voilà, on inscrit tout le monde obligatoirement, y compris les conjoints, voilà, au RSA, qui pour certains ont peut-être un boulot, par ailleurs, voilà, seront aussi obligés de s'inscrire, et ça permettra, soi-disant, un meilleur suivi de la part de futur France Travail. Au passage, là, ils font l'inverse, c'est-à-dire que là, pour la AAH, là, depuis le 1er octobre, il y a la déconjugalisation qui entre en vigueur, voilà, on sépare l'examen selon la situation individuelle, là, ils font exactement l'inverse au niveau de l'inscription des allocataires du RSA. Il y a effectivement une logique qui est un peu contradictoire de ce point de vue-là, mais qui surtout, en tout cas, sert à créer un vaste fichier qui servira pas autre chose qu'à orienter les allocataires du RSA vers les secteurs en tension, comme c'est le cas là pour la sécurité, où chaque agence Pôle emploi se tire là et en concurrence. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Je pense que moi, je suis dans le 94, mais dans le 93, je pense que c'est un peu pareil. Chaque agence Pôle emploi se met en concurrence qui a le plus envoyé vers le métier de la sécurité pour travailler sur les JO. Il y a des stats selon agence. Pour l'instant, uniquement au niveau par agence, pas encore par agent, mais qui a l'agence a inscrit le plus de gens en atelier sécurité. Donc ce qui est valable pour la sécurité aujourd'hui sera valable après certainement pour les autres métiers.
En fait, l'idée, c'est vraiment de ficher toute personne apte à travailler et du coup de la mettre au travail. Non seulement, effectivement, comme on a parlé Luc, l'idée c'est d'inscrire toute personne qui va percevoir le RSA et son conjoint ou sa conjointe, mais y compris c'est d'aller à la chasse aux oisifs, en gros, pour faire très simple, c'est d'aller à la chasse aux personnes qui n'ont pas de travail et qui devraient, selon la conception gouvernementale, travailler. Ça concerne l'aspect allocataire du RSA. Aujourd'hui, on estime à peu près à 40% des allocataires du RSA qui sont inscrits à Pôle emploi. Pour ça, du socle, le ministre du Travail, il parle de création de 300 emplois à temps plein à Pôle emploi. Je crois qu'en moyenne, ça fait du 6 000 personnes accompagnées. Hein. Donc super, merci. Un conseiller va accompagner 6 000. Donc en fait, on sait très bien que ce n'est pas les conseillers Pôle emploi qui vont faire cet accompagnement, mais que derrière, en fait, on va filer la soupe à des boîtes privées. Ça concerne les allocataires du RSA. Mais derrière, il y a des trucs qui sont aussi très inquiétants. C'est deux autres aspects, les jeunes et les travailleurs handicapés. Sur les jeunes, l'idée, c'est de repérer tout jeune qui est apte à travailler, qui n'est pas pour l'instant inscrit, qui n'est ni en formation ni en emploi pour le coup. On va peut-être en parler après sur l'aspect gouvernance de France Travail et sur l'aspect qui est dans le réseau France Travail. Mais l'idée, c'est d'associer notamment tout un tas d'opérateurs privés, des associations qui font le aller vers. Macron, il aime bien dire aller vers et qui sont en capacité d'aller chercher les jeunes et les rabattre vers le réseau France Travail. Dans le projet de loi, en tout cas dans l'état dans lequel il était voté au Sénat, dans l'article 6, on disait des organismes publics ou privés peuvent être chargés du repérage des personnes les plus éloignées de l'emploi ou qui ne sont pas en contact avec les acteurs institutionnels de l'insertion sociale et professionnelle, ainsi que la remobilisation de l'accompagnement socio-professionnel de ces personnes. Dans le dossier de presse gouvernemental qui accompagne le projet de loi, ils disent « Les acteurs associatifs qui ont permis de formaliser des techniques et actions de repérage, souvent considérées comme informelles, maraudes à pied, maraudes en pied d'immeuble dans les quartiers prioritaires de la ville, rencontres informelles lors d'événements locaux comme des matchs de foot, de basketball, marchés, kermesses, formes des associations, etc. » Voilà, donc en fait, toutes ces associations pourront être labellisées France Travail pour faire du rabattage. Enfin, on a l'impression que c'est une battue. On fait une chasse à cour, il y a une battue de ces associations qui ont l'habitude de travailler aux côtés des jeunes et qui sont censées les ramener vers France Travail. Les publics visés, ça peut être autant les jeunes en situation de décrochage scolaire que les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance, que les sorties de détention, que les étrangers primo-arrivants, etc. Toute personne qui devrait, selon la constitution gouvernementale, travailler, qui est hors des radars. Le troisième public, c'est le public travailleur handicapé. Et là, il y a un truc qui est assez inquiétant et assez grave dans le projet de loi, parce qu'il y a tout un chapitre qui est concerné, c'est que déjà, on va généraliser la délivrance de RQTH, de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, à toute personne qui pourrait être accidentée du travail, en maladie professionnelle, détenteur de la AAH, des jeunes qui ont été suivis par la MDPH dans leur minorité. Voilà, toutes ces personnes-là pourront avoir une délivrance automatique de RQTH. On peut dire que c'est une bonne chose, enfin, parce que c'est galère, la MDPH, je constitue des dossiers, ça prend énormément de temps, donc là c'est pas mal, il y aura une délivrance automatique. D'une part, en fait, c'est aussi permettre de gonfler artificiellement le taux de travailleurs handicapés, parce qu'il faut quand même rappeler que les entreprises ont une obligation normalement d'employabilité d'auteur de 6% de leurs effectifs de travailleurs handicapés, sinon ils paient des amendes. Donc là, le fait de délivrer plus facilement les RQTH, bah en fait, ça gonfle artificiellement, donc ça exonère aussi les entreprises d'avoir des recrutements spécifiques à destination des adultes handicapés, enfin des travailleurs en situation de handicap. Et par ailleurs, il est dit dans le projet, une présomption d'employabilité en milieu ouvert. Auparavant, quelqu'un qui a une reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, il y avait un collège pluridisciplinaire, notamment avec des médecins, qui décidait d'une orientation en milieu ouvert ou en milieu préservé, on va dire. Quoi, le milieu du travail ou alors dans les ESAT, dans les établissements spécialisés pour l'accueil des travailleurs handicapés. Là, aujourd'hui, on a une présomption d'employabilité pour tout le monde en milieu ouvert. En soi, on peut dire que c'est une bonne chose, c'est l'inclusivité. C'est-à-dire qu'en gros, on ne fait pas des ghettos de travailleurs handicapés, tout le monde est apte à travailler. Sauf que, on le voit dans l'éducation nationale ce que ça donne, s'il n'y a pas de moyens pour cette inclusivité, en fait, on jette juste en pâture des personnes qui peuvent être fragilisées par des parcours de vie, par des handicaps, etc. On les juste en pâture dans le milieu classique, sans financement, sans adaptation au poste, sans suivi, etc. Et si jamais des pathologies particulières nécessitent vraiment un milieu protégé, et bien là, ça devrait être les conseillers de Pôle emploi, expert handicap ou de Cap emploi, qui fait à l'heure actuelle l'accompagnement des personnes porteurs de handicap, qui devra demander à la MDPH une révision du dossier. Donc plus des professionnels de santé, mais des personnes qui sont en charge de l'insertion, qui devront redemander une réorientation. Voilà, donc là, on voit que finalement, l'idée derrière la logique de France Travail, c'est nul n'est inemployable. Vraiment, c'est la formule, c'est nul n'est inemployable. Et du coup, on fera en sorte de mettre le plus de personnes possible à disposition du patronat, de mettre en concurrence tous les travailleurs, voilà. Quelle que soit leur situation, quel que soit leur statut, quelle que soit leur pathologie ou quoi que ce soit, mise en concurrence généralisée et derrière, finalement, garantir finalement aucun aspect préservé. Peut-être le seul aspect positif concernant les travailleurs en situation de handicap, c'est une généralisation un peu des droits dans les ESAT, parce que pour aujourd'hui c'est un peu des zones de non-droit, hein. Les établissements spécialisés dans le handicap, c'est des salaires de merde, c'est aucun droit à la défense collective, c'est pas droit à la mutuelle, c'est des maltraitances pas possibles et aucun droit à des délégués du personnel et une reconnaissance. Là, une petite évolution, alors pas sur les salaires, il parle de concertation pour voir s'ils peuvent améliorer ça, mais par contre ce serait une reconnaissance des droits individuels, par exemple à la mutuelle, des reconnaissances des droits à lire des représentants du personnel et reconnaissance je sais plus, c'était pour les congés, etc. quoi. Voilà, ça c'est un peu le seul aspect positif concernant ça, mais vraiment l'idée c'est de dire que aujourd'hui France Travail, ce sera l'inscription généralisée de toute personne qui doit être foutue au boulot, avec derrière le contrôle qui, je pense, dont on va parler après.
Ils ont fini par un amendement qui a fini par être adopté pour exclure les personnes invalides, incapables d'occuper n'importe quel emploi. Mais il a fallu que ce soit sur la base d'un amendement spécifique qui a fini par être voté et qui stipule clairement que quand tu es invalide et que tu es incapable d'occuper quoi que ce soit, là, effectivement, tu n'es pas concerné.
L'idée, c'est vraiment France Travail, c'est le portail unique d'inscription. Donc peu importe ensuite leur suivi. Que ce soit mission locale, que ce soit Cap Emploi, que ce soit les boîtes privées dont on va parler après, peu importe le suivi, il y aura une inscription unique sur un portail unique dématérialisé, ce qui renforce encore plus aussi l'exclusion numérique, mais une inscription unique sur un portail. Et ensuite, Pôle emploi qui devient France Travail offre à tous les partenaires du réseau, partenaires avec des grosses guillemets, hein, sa base de données, donc le fichier, et ensuite ce sera un algorithme qui décidera du dispatching chez tel ou tel opérateur pour l'accompagnement de tel ou tel public. Voilà, selon les critères qui ont été rentrés dans le script d'inscription, selon le profil personnel, la situation géographique, etc. Mais en tout cas, il y aura un portail unique d'inscription et une base unique de fichage généralisé des chômeurs.
Continue avec le cours sur le droit du travail qui a été fait le 2 octobre avec comme thème « Chômeurs face à France Travail » avec Luc Chevalier de Sud Emploi et Johan Picto de la CGT Pôle Emploi.
Ouais, sur le contrat d'engagement, c'est plus le projet personnalisé d'accès à l'emploi, ça disparaît, c'est le contrat d'engagement. Effectivement, ce contrat d'engagement qui a été voté minimum 15 heures, donc là c'est adopté, 15 heures minimum. C'est adopté, c'est pas 15 heures, c'est minimum. Et il a adopté comme la base d'expérimentation 18 départements, ou enfin partie de départements qui ont mis en place ces expérimentations-là, avant qu'il y ait le moins de bilan. Donc ça se met en place et ça va être généralisé, bien sûr, sans aucun bilan, évidemment. Et là, on voit déjà un peu comment ça se passe concrètement pour les personnes qui subissent ça. Par exemple, à Tourcoing, ça concerne 700 personnes pour l'instant. Et concrètement, tu as un entretien déjà conjoint avec un conseiller Pôle emploi et un agent du département. Tu es reçu par un binôme pour t'expliquer directement la teneur du contrat. Les statistiques qu'ils ont fait, c'est que tu as sur les les 700 personnes reçues, tu en as 60% qui sont considérés comme étant éligibles au parcours dit emploi. Tu as trois parcours, tu as le parcours emploi, tu as le parcours équilibre, où là, tu peux avoir des difficultés spécifiques, et tu as le parcours social. Bon, là, le parcours équilibre, 25% pour l'instant, le parcours social, 15%. Voilà, pour l'instant, sur les 700 personnes reçues à Tourcoing. Un autre exemple de ce qui est en place en ce moment, c'est dans le Loiret, là, sur le bassin de Montargis. Ben là, c'est clair, c'est des immersions professionnelles. Donc là, dans le Loiret, c'est à Montargis, c'est des immersions professionnelles obligatoires. Ça fait partie du contrat. C'est, voilà, t'as pas le choix, tu es immergé directement. Alors, sur l'aspect des engagements aussi, pareil, entre guillemets, il y a eu beaucoup de discussions là, dans la commission des affaires sociales. Ils disent, mais oui, mais alors vous obligez, enfin, vous dites aux chômeurs qui doivent s'engager. Mais en face, derrière, toutes les interventions du Parti Socialiste, LFI, le groupe NUPES là-dessus, c'est de dire, mais quid des engagements du service public. Mais sauf que là, par contre, c'est pas inscrit dans la loi. Ça rejoint ce que vous avez tout à l'heure sur les 300 emplois, enfin, les 300 postes qu'ils vont créer, pour dire que, bien évidemment, tout ça, et ils le savent pertinemment, n'est pas fait pour accompagner réellement les gens, mais créer un fichier avec aucun moyen derrière. Même les amendements qui essayaient, entre guillemets, d'atténuer la logique, au lieu de supprimer le RSA à des gens qui ne respectent pas l'engagement, nous vous propose, enfin nous c'était le groupe Lyot, hein, la centre droit, nous vous propose de donner un bonus à ceux qui respectent le contrat. Bah, même ça, un bonus de majorer le RSA par exemple à ceux qui respectent. Donc, même ça, c'était refusé. La logique un peu qui préside à tout ça, du point de vue du gouvernement, donc effectivement les 15 heures minimum qui serviront de toute façon à du travail déguisé, travail forcé, et à peser sur l'ensemble des salariés en poste.
En gros, là, ils vont essayer de généraliser ce qui est déjà mis en place à Pôle emploi chez les jeunes. Donc, il y a le contrat d'engagement jeune, le CEJ, qui existe aujourd'hui à Pôle emploi. C'est un financement européen et tout jeune qui rentre dans ce contrat-là, il a droit à une allocation, la CEJ, l'allocation du contrat d'engagement jeune. Et en échange de cette allocation, du coup, doit fournir 15 à 20 heures d'activité avec un tableau de pilotage que le conseiller doit remplir toutes les semaines. Enfin, en fait, c'est plus l'accompagnement, c'est beaucoup de travail administratif pour les conseillers. Par exemple, répondre à une offre d'emploi, enfin, envoyer une offre d'emploi, c'est 3 heures. Voilà, parce qu'on estime qu'il faut répondre à l'offre, il faut faire un CV, il faut faire une lettre de motivation. Donc, c'est considéré comme ça. En fait, quand le gouvernement dit 15 heures d'activité, à chaque fois, il dit toujours dans les médias, attention, c'est pas du travail dissimulé, c'est pas du travail obligatoire, c'est de l'activité. Du coup, l'activité, ça peut être tout, n'importe quoi. Aller à la salle de sport, ça peut être de l'activité. Aller chez son psy, ça peut être de l'activité. L'important, c'est de mettre en mouvement les gens, parce que les gens, c'est connu, ils sont chez eux, rien foutre. Et voilà, il y a cette logique-là qui est pensée. Alors que là, il y a un rapport notamment du Secours catholique qui montre l'immense activité des personnes au RSA et qui finalement compensent énormément de services publics par leur activité, par le service à la personne souvent qui est effectué, par le bénévolat qui est fait. L'idée, c'est vraiment généraliser ce qui se passe aujourd'hui au niveau des jeunes pour le RSA. En Île-de-France, il y a un territoire qui est concerné par l'expérimentation, c'est les Yvelines. Et pour le coup, c'est un peu l'inverse de ce que Luc décrivait sur Tourcoing. Parce qu'en fait, la plupart des allocataires, ils avaient tellement de freins sociaux qu'en fait, ils étaient orientés plutôt sur les parcours sociaux plus que sur le parcours emploi, parce qu'en fait, clairement, les gens n'étaient pas forcément employables parce qu'ils avaient trop de problématiques. Il faut avoir en tête les expérimentations qui ont eu lieu déjà ces dernières années des territoires zéro chômeur, qui ont eu lieu sur plusieurs territoires en France, où c'était un peu la même chose, c'était de dire qu'on va contraindre les chômeurs à accepter du travail d'intérêt général en échange de leur allocation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à travers ça, en fait, en mettant en place du travail forcé des chômeurs en échange de leur allocation, en fait, on casse de l'emploi public. Notamment quand on fait travailler des gens dans la voirie, dans le traitement des déchets, dans les espaces verts. Bon, en fait, c'est des métiers avec des formations, avec des conditions de travail, avec des accords, avec des droits. C'est des métiers que là, du coup, on n'occupe plus par des fonctionnaires, mais qu'on occupe par des chômeurs qui ne sont pas salariés, mais qui font juste un échange de location. Donc, clairement, on prive de l'emploi public, on met en concurrence des travailleurs privés d'emploi avec des travailleurs en emploi, des travailleurs moins protégés, sous-payés avec des travailleurs avec des protections collectives, etc., avec du droit de syndicat. Enfin, et voilà. Et vraiment, l'idée, c'est ça. C'est vraiment la mise en concurrence à travers ça. Les 15 heures d'activité pour les allocataires du RSA, c'est effectivement, comme l'a dit Luc, du stage en entreprise. Comment ils peuvent dire derrière que ce n'est pas du travail gratuit ? Je ne sais pas si vous avez déjà fait stage, mais on n'est pas juste comme ça en train d'observer pendant 2 semaines un travailleur. Non, enfin, on met la main à la pâte, on y va, on travaille. Donc en fait, un stage d'entreprise, c'est bien du travail. ils veulent aussi généraliser les PEE, les préparations opérationnelles à l'emploi. En gros, les PEE, c'est pendant que tu es inscrit à Pôle emploi, pendant que tu touches une allocation de Pôle emploi, eh ben, tu vas travailler et te former dans une entreprise. Donc, comme ça, le patron, lui, il ne te paye pas. Il te forme à ses besoins, lui, mais pendant que toi, tu es indemnisé. Et pendant cela, tu bosses. Et à la fin, si jamais tu conviens, eh ben, potentiellement, il peut t'embaucher. Ces PEE ont vocation à être généralisés par toutes les boîtes. Les stages et les PEE n'auront pas seulement vocation à être délivrés par Pôle emploi, comme c'est le cas actuellement, mais par n'importe quel opérateur du réseau France Travail qui comprendra des opérateurs publics et des opérateurs privés. Mais derrière ça, en fait, c'est finalement, enfin, il va y avoir plein d'arnaques parce que dans les opérateurs, pour spoiler un peu, il y a des agences d'intérim, par exemple. Enfin, on voit très bien des accords entre des boîtes privées et des agences d'intérim qui feront des PEE et des PMSMP à la chaîne où en fait, on envoie des travailleurs gratuitement et puis il y a derrière sans obligation d'embauche au final, quoi. Préparation opérationnelle à l'emploi. C'est des formations préalables au recrutement.
Je refuse d'être tué à la tâche, affamé au chômage pour cracher du profit. Je préfère de suer sang et eau en choisissant pour qui, pourquoi, où et quand et comment que t'allais me détruire pour produire des nuisances qui détruisent à leur tour. Pour découvrir la vie plutôt que la survie, pour ne plus travailler, rien n'est à espérer, tout est à renverser, et sur la table rase, nous vous aimons.
Pôle emploi, donc, ils ont voté, va devenir l'opérateur France Travail. Pôle emploi ne s'appellera plus Pôle emploi, on va dire opérateur France Travail, et tu auras le réseau des acteurs de l'insertion et de l'emploi, le réseau France Travail, voilà, qui regroupera, comme l'a dit Johan, aussi les boîtes privées, à même titre. C'est la poursuite logique de ce qu'ils font depuis les années 2000, hein, c'est-à-dire, sans refaire toute l'histoire des services de placement, entre guillemets, en France, mais historiquement, il y avait déjà une bagarre sur la gratuité ou ou le caractère lié au de faire du profit de ces services-là. Depuis le début du 20e, c'était censé avoir un caractère gratuit. En 2005, l'ANPE a perdu le monopole du placement, entre guillemets, pour ouvrir tout ça aux boîtes privées, parce que c'est quand même un marché très, très, très juteux. C'est dans l'ouverture à ce marché-là que toute une série de boîtes privées se sont engouffrées. Ça fait que 15 ans, finalement, hein, même pas 20 ans. Pour prendre qu'un seul exemple, mais qui est très significatif là par rapport à la création de France Travail, c'est ce qui s'est passé, vous avez peut-être entendu parler aussi, pareil, là au début de l'été aussi, l'affaire avec Ferracci. Alors Marc Ferracci, ça devait être le rapporteur du projet de loi France Travail. C'est un député macroniste qui va être le rapporteur du projet de loi France Travail, qui est le fils de Pierre Ferracci. Pour faire court, c'est le dirigeant du cabinet de reclassement CKFI Alpha, qui a créé une filiale Sémaphor, filiale elle-même Sémaphor, qui s'est associée en 2021 avec Axis, qui est une boîte privée, qui permet, pour faire très court, d'avoir la main sur l'essentiel du marché des sous-traitants privés de Pôle emploi via Axis, mais indirectement. Et donc, Marc Ferracci, donc député macroniste, ex-rapporteur de la loi Pôle emploi, est actionnaire de la boîte de son père. Voilà. Donc, on a, au-delà en plus de l'aspect caricatural, je veux dire familial, bon, voilà, là on a une caricature totale, mais bien concentré de comment le dépeçage depuis 2005 du service public permet d'avoir accès à un gâteau énorme. Sa boîte, pour la petite histoire, en 2016, était en faillite là, sur l'accompagnement des marchés de la compagnie, ils n'avaient plus de marché. Ben, le fait, tout d'un coup, d'ouvrir largement les perspectives, notamment de chômeurs accompagnés, et en l'occurrence de l'octroi du RSA, bon, ben voilà, ça fait un marché inespéré qui s'offre à tous ces gens-là. L'accord, encore une fois, entre Axis, petite boîte du Nord, hein, de la France, l'accord entre eux et Sémaphor, donc la filiale d'Alpha Ferracci, tout d'un coup, donc par hasard, permet d'accéder à tous ces marchés-là. Le projet de loi France Travail tombe à point donné par rapport aussi à ça. Pareil, dans les discussions sur la en commission d'affaires sociales, bien évidemment, tout ce qui est amendement qui proposait de retirer, de supprimer le fait que les OPP, opérateurs privés de placement, soient associés à même titre que tout le monde dans le réseau France Travail, bien évidemment, cet amendement a été rejeté clairement. Donc voilà. Et sur France Travail, un aspect aussi qui est assez hallucinant dans les débats, les questions c'est mais pourquoi vous appelez ça France Travail ? Personne ne le demande. Texte incroyable, franchement, c'est dans les débats, Ferracci dit, mais moi en discutant avec Basser, le directeur général de Pôle emploi, il dit, mais les agents de Pôle emploi, ils attendent le changement de nom. Je vous jure, c'est écrit noir sur blanc. Alors moi, je ne sais pas, Ivan, si tes collègues attendent ça, mais je vous dis, c'est écrit noir sur blanc. Donc je ne sais pas qui à Pôle emploi attend ça, mais eux, ils osent le dire. Et puis, dernier truc là-dessus, ma question a été posée à Dussort, à l'Assemblée nationale. Oui, mais OK, donc vous persistez à changer de nom. Pour la petite anecdote, ça a été adopté à trois voix près en séance. C'est un changement de nom. Trois voix près. Vous persistez à changer de nom. Ça va coûter combien tout ça ? Petit détail, annexement. Dussault dit environ 10 millions. Mais 10 millions sur un budget de plusieurs milliards à Pôle emploi, c'est rien. Pour eux, c'est tout le changement de matos, de logo, tout ça, c'est que 10 millions. Ça a un sens. Je cite, c'est structurant, c'est créer une marque France Travail.
France Travail, ça. Enfin... C'est aussi un truc idéologique, quoi, parce que voilà. Ça sonne pour eux, ça sonne tradition, ça sonne pétain, ça sonne des trucs qui leur fait plaisir, quoi. Ça renvoie aussi à des fondamentaux pour eux de voilà, France Travail, famille, patrie, c'est vraiment le truc qui parle, quoi. Ferracci, juste pour l'anecdote, c'était le témoin de mariage de Macron, hein. Et inversement, en fait, c'est des grands potes, Marc Ferracci, c'est des grands potes, c'est Mafor, donc la filiale de son daron. C'était le principal prestataire de l'NPE à l'époque. Il a perdu le marché et il a réussi à retourner dans la boucle en s'associant avec Axis, en se mettant eux derrière en pilotage pendant qu'Axis mettait en opérationnel. Dans le réseau France Travail, pour l'instant, ce qui était cité en tout cas dans le rapport Guilhuy qui préfigurait la loi, c'était que ça constituait à la fois d'opérateurs publics, donc Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, des organismes publics et paritaires comme l'AFPA, l'APEC qui fait le suivi des cadres, les OPCO qui sont les organismes paritaires collecteurs pour les formations professionnelles, les CAF, les CQ, les maisons agricoles, les CCAS, les AGFIP qui financent les formations pour les travailleurs handicapés, les PLI qui sont des accompagnements intensifs pour les chômeurs, et des associations et acteurs privés, les SIAE, donc les structures d'insertion par l'activité économique, les écoles de la deuxième chance, les entreprises adaptées, les intérims, les cabinets de recrutement. Il faut voir qu'au niveau de l'intérim, et c'est vraiment là où tout est inquiétant, mais c'est extrêmement inquiétant, c'est qu'elles ont une énorme place dans le réseau France Travail. Il y a notamment Prisme Emploi, qui est l'organisation professionnelle des entreprises de travailleurs temporaires et de recrutement, qui a signé un accord cadre déjà avec l'ensemble des futurs opérateurs France Travail sous l'égide du ministère du Travail et se positionne clairement comme un interlocuteur privilégié. Il est même précisé qu'il conviendra de mobiliser les organismes de placement et les agences d'intérim pour mettre en œuvre des parcours intensifs à viser emploi direct pour les personnes prêtes à reprendre un emploi immédiatement. Donc clairement, une délégation véritablement de l'accompagnement d'un certain public auprès des agents d'intérim au détriment effectivement de ce qu'on revendique d'un monopole public de l'accompagnement hors de visée commerciale, quoi. Notamment, il indiquait que les ETT, donc les entreprises de travail temporaire, pourront alors proposer les profils plus facilement aux employeurs en ayant accès à la base de données de Pôle emploi. Et qu'il conviendra de généraliser cet accès à la banque de profils dans une logique de partage des données pour enrichir les profils et maximiser pour les personnes les opportunités d'emploi qui ne peuvent être proposées par les acteurs privés. Donc vraiment, on fait rentrer les agents d'intérim dans le partage des publics et dans directement la mise en œuvre opérationnelle. Il faut voir que, effectivement, les intérims, c'est un énorme business. Ce n'est pas les seuls. On a parlé de Sémaphore, Secafiafa, etc. Il y en a plein d'autres. Thibaut Guilhuy, qui était le haut fonctionnaire là, chargé de rédiger le rapport, de faire les réunions de concertation pour préparer le projet de loi plein emploi à France Travail. C'est lui qui a rédigé le rapport de plus de 200 pages. Là. Thibaut Guilhuy, avant d'être haut commissaire pour le gouvernement, il était PDG pendant 14 ans de 2006 à 2020 du groupe ARES, qui est l'association pour la réinsertion économique et sociale. Ce groupe ARES, c'est un groupe de business qui fait du business de l'insertion sociale. En 2022, ARES, ils ont fait un chiffre d'affaires de 37 millions d'euros. 37 millions, sachant qu'en 2021, c'était 31 millions. En 2020, c'était 24 millions. Voilà. L'évolution en 3 ans de 24 millions à 37 millions, pour le groupe Arès. Et ça va aller en augmentant parce que, par exemple, le groupe Arès vient de bénéficier directement de la privatisation de l'accompagnement des allocataires du RSA sur le 93. Parce que sur le 93, même s'ils sortiraient l'expérimentation en faisant genre oui, on est contre le flicage, etc., en fait, ils viennent juste de liquider leur service d'insertion du RSA. Auparavant, il y avait 200 agents départementaux qui s'occupaient de l'accompagnement des allocataires du RSA. Ça, c'était privatisé avec les contractuels en gros foutus à la porte et les titulaires envoyés dans notre service. Et à la place, il y a eu un appel d'offres pour une séparation du territoire, un marché des allocataires du RSA, avec différents groupes, associations, structures privées qui ont répondu. Et le groupe Arès a remporté deux territoires sur le 93, celui d'Aubervilliers, là où il y a mon agence, et le territoire du Pré-Saint-Gervais, Bagnolet et Lila, et donc va être maintenant en charge de l'accompagnement des allocataires du RSA, avec la thune qui correspond. Voilà le type d'opérateur qui, du coup, va s'aiguiser les dents et qui va s'emparer du marché de l'accompagnement au détriment du service public de l'emploi.
Idem sur le 94, hein, là, les espaces d'insertion de la Champigny, ça a fermé fin décembre. C'est la même logique sur le 94. Hein, donc qui va reprendre ça? Bonne question. Arès ou pas, mais en tout cas, c'est la même tendance, hein, ça c'est clair.
Et le truc, c'est que dans le réseau France Travail, nous, on condamne la privatisation de nos missions et l'externalisation de nos missions. Donc en fait, là, pour l'instant, il y a tout un tas de groupes qui sont des prestataires de Pôle emploi, des sous-traitants de Pôle emploi. Déjà, ça, c'est scandaleux. Là, avec France Travail, ce ne sera plus des sous-traitants, ce sera des partenaires. Enfin, des concurrents, mais en tout cas, tout le monde aura ce label et tout le monde sera un peu au même niveau et pourra se partager le marché, les publics, selon les affectations et selon les accords avec l'État à chaque niveau. Quoi.
Ces cours, c'est pour nous aider à nous battre. Hein. Mmh. Et donc, le collectif UNEDIC, comme je l'ai peut-être dit tout à l'heure, c'est Agir ensemble contre le chômage, APES, MNCP, CGT chômeur, les syndicalistes de Pôle emploi qui sont représentés là par Luc et Johan. Mais ce collectif, il est trop... je veux dire qu'il ne doit pas être le seul à agir. Il faut le renforcer. Donc si vous pouvez faire venir dans ce collectif UNEDIC les gens qui vont être mis à sec, quoi, qui vont devenir des travailleurs forcés par cette réforme, faites-le, c'est-à-dire que nous avons une AG de ce collectif, vous pouvez rejoindre ce collectif. Parce que le collectif UNEDIC, il faut le renforcer, il faut qu'il soit renforcé par les gens que cette réforme va matraquer. Et je signale aussi qu'il y a des gens déjà qui se mobilisent beaucoup, qui s'appellent le Mouton Numérique, qui ont fait 6 séances absolument magnifiques, hein, sur le fait que la dématérialisation dans les services publics, c'est une déshumanisation, c'est une privation de droits et d'accès à ces droits qui fait que beaucoup de gens sont coupés de leurs droits ou n'arrivent plus à les et du coup il y a un taux de non couvert par les droits hallucinant. Alors ce collectif, le Mouton Numérique, si vous allez sur internet et vous tapez Mouton Numérique, vous allez avoir accès directement aux 6 séances qui ont été organisées en un an sur cette déshumanisation et cette privation de droits, ce vol, cette arnaque. En quoi consiste la numérisation? Il y a aussi la Quadrature du Net qui se bat contre le fait que justement la dématérialisation, le passage obligatoire par le numérique, alors qu'il y a un fossé numérique, il y a plein de gens qui ne peuvent pas l'utiliser ou qui n'ont pas les moyens ou qui ne savent pas. Donc la Quadrature du Net se bat aussi contre ça. Et donc, si vous pouvez voir des collectifs ou des associations qui se sentent concernés et qui veulent faire masse avec nous, parce que là, vous avez vu, personne n'en parle, hein, les journaux, c'est bouche cousue, il n'y a pas de mobilisation, et c'est quand même une des réformes les pires de ces dernières années.
Après, il y avait un autre aspect qui est en lien avec ce que je disais au début, sur, justement, puisque c'est... France Travail, c'est la suite logique de leur politique, c'est sur l'assurance chômage. Et là, sans faire toute l'histoire de l'assurance chômage, parce que ce n'est pas le lieu, ce sera un débat en tant que tel, mais juste sur l'aspect qui entre en vigueur au 1er février 2023, enfin pour les contrats qui se finissent au 1er février, c'est ce qu'ils appellent la contracyclicité, pour reprendre leur terme savant.
La quoi ?
La contracyclicité, c'est-à-dire en gros, quand ça va bien, on indemnise moins mal, on indemnise peu, et quand ça ne va pas bien, on indemnise plus. Voilà. Bon, ça, c'est une rupture quand même, parce que ça n'existait pas, en tout cas avant. Mais c'est quelque chose qui sont allés chercher au Canada, était mis en place au Canada depuis 2012. Alors comment ça se passe au Canada? Selon le taux de chômage, tu es indemnisé plus ou moins longtemps. Donc ouais. Par exemple, selon ta région, par exemple à Québec, c'est, le taux de chômage il est à 3%. Ouais. Bon, bah, tu vas être indemnisé entre 14 et 36 semaines. S'il est à 10% de notre région, tu es indemnisé entre 21 et 45 semaines. C'est-à-dire qu'au Canada, les bornes d'indemnisation, ça va de 14 à 45 semaines selon le taux de chômage de ta région. Et il faut avoir travaillé entre 420 et 700 heures selon les régions aussi. Donc voilà, c'est ça, cette logique-là qui sont en train de mettre en place pour essayer de faire passer l'idée que ben voilà, là où ça va bien, il n'y a pas besoin d'être indemnisé aussi longtemps, etc. Bon. Concrètement, là, en France, on est aujourd'hui actuellement en période verte, on est en dessous de 9%. Pour eux, il y a une période verte et une période rouge. La période verte, c'est 9%, en dessous de 9%. Pour passer en période rouge, c'est-à-dire donc rétablir peut-être une indemnisation plus favorable, entre guillemets, il faut que le taux de chômage passe au-dessus de 9% ou que tu aies une augmentation de plus de 0,8% pendant un trimestre. Voilà, ça c'est ça leur critère. Et c'est donc pour essayer d'inculquer cette logique-là de... Tu as des niveaux d'indemnisation différents selon que tu habites à Paris, à Marseille, à Lyon, etc. Et de casser encore plus un système qui n'est déjà pas favorable, mais de le casser encore plus de ce point de vue-là. Et ils ont même eu le débat, qui n'a pas été adopté finalement, mais en tout cas, c'est un débat qu'ils avaient en tête. Si le taux de chômage passait en dessous de 6%, de baisser la durée de 40%. Ils n'ont pas pour l'instant mis en place. Je pense qu'ils ont dans la tête, mais qui n'est pas encore adopté, mais ce qu'ils ont dans la tête comme prochaine étape, tu mets en place des seuils à tel taux de chômage. Tu baisses de temps, voilà, et c'est pas compliqué. Tu as une logique qui est implacable, qui s'applique, où tu n'as pas à t'emmerder quelque part, mais y compris même à ne serait-ce qu'en faire seulement de négocier, parce que là, déjà, tu négocies même plus le décret actuel, qui est censé aller jusqu'au 31 décembre 2023. Il va être négocié, entre guillemets, dans le cadre d'une aide de cadrage qui impose de refaire encore de nouvelles économies. Mais là, limite, avec ça, tu n'as pas besoin de te faire chier avec des aides de cadrage. Tu mets en place une grille automatique, tel taux de chômage, c'est temps en moins, etc., etc. Si on enlève encore de la discussion, un peu de discussion qu'il y a, entre guillemets, hein, pour mettre en place un système qui, là, serait plus simple de leur point de vue et qui bon, pourrait se diriger après vers un forfait, etc. Mais en tout cas, voilà la tendance qu'ils sont en train de mettre en place petit à petit.
Alors, si vous avez envie de continuer à vous informer, le lundi 6 novembre, il y aura à nouveau une conférence organisée par Stop Précarité avec Ayane Guézou, Sophie Rigard de Secours Catholique et Alain Couder d'AC63. Ils reviendront sur la question du nouveau RSA sous contrainte. Si vous allez sur le site de l'actualitédeslutte.info, vous aurez tous les rendez-vous proposés par Stop Précarité.
Je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là de revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça.
Radio Primitive. La radio associative.
T'as rien entendu? Je te disais, toi aussi tu me manques. Mais pour ce soir, j'ai pas trop le choix. Tu ne t'inquiéteras pas si le son ambiant est légèrement différent. Ça ne devrait rien cacher au programme.